Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence poursuit cette année un cours commencé l'an dernier sur les provinces arabes à la fin de l'époque ottomane. Il y examine l'évolution de l'Empire ottoman au XIXe siècle. Vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, ses premiers cours sur le site de l'Éloge du Savoir et sur celui du Collège de France. Ce cours dégage par petites touches les racines de la crise profonde qui traverse aujourd'hui le monde musulman, de la Turquie en passant par la Syrie, la Libye et l'Algérie. Après avoir décrit les divers courants savants, artistiques, littéraires, de ce qu'on appelle l'orientalisme, Henri Laurence a évoqué quelques-unes des grandes figures d'aventuriers voyageurs qui ont contribué à faire connaître aux Européens ce monde caché et fascinant. Habillés en bédouins, maîtrisant les langues, ils rapportent de leur voyage dans l'Empire ottoman des récits pittoresques et documentés dont la publication connaît un grand retentissement grâce au développement de l'édition de masse dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais une autre révolution technologique joue aussi un rôle capital. Le télégraphe, dont les câbles tendus à travers les mers et les océans, de Londres à Bombay, puis à travers le monde entier, sont un instrument efficace de la puissance britannique. L'Orient arabe cesse d'être lointain, l'information circule en temps réel. Hier matin, Henri Laurence a commencé à présenter l'évolution de l'Égypte comme laboratoire de la modernité en terre d'islam. On assiste en effet dans ce pays à la naissance d'un État moderne, avec le développement de services d'éducation et de santé, ou encore avec l'essor de l'imprimerie. Cette modernisation entraîne l'émergence d'une aristocratie de fonction, ouverte à la modernité et cliente de ses nouveaux services. Mais, soulignait Henri Laurence, cette modernisation s'accompagne de deux mauvais signaux. D'une part, l'invasion consulaire, c'est-à-dire le poids grandissant des bureaux consulaires des grands pays européens qui font pression sur le gouvernement ottoman pour obtenir toutes sortes de privilèges fiscaux et commerciaux. D'autre part, une pratique mal contrôlée de l'endettement pour financer la modernisation qui finit par peser très lourd. Ce matin, Henri Laurence poursuit son analyse en soulignant la naissance d'une identité égyptienne qui accentue l'écart entre l'Empire ottoman et l'Égypte. Identité qui s'appuie sur des réalités administratives et économiques, mais aussi sur l'égyptologie savante. Écoutez.
Si l'élite ottomane, les awats, les meilleurs, en quelque sorte, continuent de gouverner l'Égypte, le pouvoir s'ouvre aussi à la notabilité proprement égyptienne, en particulier à l'époque de Saïd Pacha, qui ouvre le recrutement des officiers de l'armée aux Égyptiens de souche, au Fallah. Mais durant la période, les mesures d'économie limitent le niveau de formation des officiers, avec la fermeture d'un certain nombre d'écoles militaires. Si donc les effectifs de l'armée égyptienne restent encore élevés, la qualité de l'armée égyptienne baisse dramatiquement. Ce n'est plus la belle armée de l'époque d'Ibrahim Pacha, celle qui avait ébranlé tout l'Orient. Autre symbole de cette période, c'est justement le début de la création d'une identité égyptienne propre et qui ici se marque, comme on le verra plus tard avec un décalage chronologique pour le reste de la région, par la découverte des temps pré-islamiques. Et dans le cas précis, évidemment, en Égypte, c'est la découverte de l'égyptologie. Et c'est à Saïd Pacha que l'on doit d'avoir engagé le français Mariette, qui crée le service des antiquités et le premier musée égyptien. Mariette reçoit le titre et le rang de bey et donc porte, comme il se doit, le tarbouche. Donc là aussi, c'est un élément important dans la formation identitaire, puisque, disons, après 1850, les Égyptiens commencent à se revendiquer aussi d'une identité ou d'une transmission pharaonique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il faut se rappeler que c'est encore valable aujourd'hui, que les Égyptiens sont tout à fait ambigus par rapport à l'Égypte pharaonique, qui est à la fois d'un côté une source de gloire, de fierté nationale, et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, il faut rappeler que le personnage de Pharaon est un des représentants du mal au pouvoir dans le Coran, comme dans la Bible d'ailleurs. Et donc il y a une négativité à porter sur le personnage. Surtout, Saïd Pacha meurt jeune, le 18 janvier 1863, à l'âge de 41 ans. C'est le fils d'Ibrahim Pacha, Ismaïl Pacha, donc né en 1830, qui lui succède. C'est un homme à la puissante personnalité dont le règne va rester controversé jusqu'à aujourd'hui. Quand Ismaïl accède au pouvoir, l'Égypte est en plein boom économique dû à la guerre de sécession, étant donné que la guerre de sécession amène la production, enfin l'exportation du coton américain. Et donc il y a ce qu'on appelle dans les débuts des années 1860 la famine de coton. Et donc l'Égypte étant producteur de coton, ben vous voyez, en 4 ans, ses exportations sont presque quadruplées entre 1861 et 1865, et la même chose pour les revenus des exportations de coton. Il faut rappeler que le coton joue au 19e siècle le même rôle que joue le pétrole au 20e siècle. Le coton est la matière première indispensable pour la révolution industrielle en Europe et en Amérique du Nord. Donc l'interruption des exportations du premier producteur pèse évidemment très lourd sur le marché. Donc la part de l'Égypte dans la production mondiale de coton dans la période 1860-1866, bah évidemment, comme les États-Unis sont hors-jeu dans cette période, le premier producteur reste évidemment l'Inde, mais l'Égypte de loin, le second producteur et exportateur de coton. Alors, c'est dans cette période que l'on peut percevoir l'ampleur des transformations en cours dans le paysage égyptien. Ben, les chiffres sont tous assez clairs. Hein? On estime la surface cultivée en Égypte en 1813, c'est un chiffre très approximatif, à 3 218 000 fêtes d'âne. Un fête d'âne égyptien, c'est 0,42 hectares. Et on passe à 4 632 000 fêtes d'âne en 1872. Autre élément essentiel, c'est dans cette période un glissement progressif de l'irrigation annuelle à l'irrigation pérenne, c'est-à-dire durant toute l'année. C'est un élément essentiel de l'histoire égyptienne, depuis les pharaons justement. L'irrigation en Égypte, c'est l'irrigation de la crue du Nil. Donc l'irrigation en été, et on ouvre des casiers successifs dans la vallée à fur et à mesure que la crue du Nil s'opère, tandis que le passage à l'irrigation pérenne, c'est donc la création de lacs réservoirs qui vont permettre d'irriguer durant toute l'année, donc d'augmenter la fréquence des récoltes. Alors, cette irrigation pérenne, elle a commencé à la fin du XVIIIe siècle du côté de Rosette, donc sur la rive du Nil, avec le début de la production de riz, et elle s'étend progressivement sur la vallée à travers le XIXe siècle. Bon, évidemment, ça continuera avec la création à l'époque de l'occupation britannique du premier barrage d'Assouan, et ce sera achevé avec le second barrage d'Assouan sous Nasser, qui mettra fin définitivement à la crue du Nil. Ceci pour vous rappeler deux éléments essentiels de l'histoire égyptienne. La première, c'est que le malheur pour l'égyptologie, c'est qu'elle est née au XIXe siècle. C'est-à-dire que les archéologues qui arrivent à partir de Champollion en Égypte voient un pays qui est en train de passer à l'irrigation pérenne, avec un pouvoir fort et centralisé qui est celui de Mohammed Ali et de ses successeurs. Et donc, ils vont considérer que l'Égypte a toujours été un pouvoir fort et centralisé, avec une capitale, un chef d'État, et qui organise tout le système d'irrigation. Alors qu'en réalité, c'est une totale nouveauté dans l'histoire égyptienne, c'est justement la production du XIXe siècle. Parce que dans l'histoire longue, l'Égypte n'est pas du tout centralisée. Dans l'histoire longue, l'Égypte est divisée en pouvoirs concurrents qui se combattent les uns les autres. Ce que jadis, dans les manuels d'égyptologie, on parlait avec honte des périodes intermédiaires. Mais en réalité, ces périodes intermédiaires, c'est la norme de l'histoire égyptienne. Et c'était encore le cas, par exemple, pour l'Égypte du XVIIIe siècle, où il y avait des régions entières qui étaient complètement indépendantes du pouvoir central. Et donc l'image d'une Égypte forte et centralisée, c'est d'abord l'image que donne la dynastie de Mohammed Ali et qui va être ensuite utilisée comme clé interprétative pour l'ensemble de l'histoire de l'Égypte. Alors, à cette époque, l'Égypte manque de bras à cause de ses faiblesses démographiques. Et donc, pour accompagner le boom du coton, on a recours à des esclaves noirs soudanais. Et les années 1860 sont le sommet de la main-d'œuvre servile en Égypte, avec une importation de 25 000 esclaves par an, alors que jusque-là, la moyenne était de l'ordre de 3 500 par an. Et là, c'est des cas très rares, ça s'est produit plusieurs fois en histoire de l'islam, mais relativement rare, où on a un esclavage à destination de la production agricole, puisque la norme en pays d'islam est que l'esclavage est d'abord à destination de la domesticité. Et donc, c'est relativement rare dans l'histoire en général. Là, on a un cas pour les années 1860. Mais ça ne dure pas très longtemps, d'autant plus que le symbole de l'Empire britannique, il y a des moteurs de croissance de l'Empire britannique, est l'interdiction de l'esclavage et de la traite des esclaves. Donc les Britanniques en avance, mais les autres Européens ensuite, puisque la France n'a supprimé l'esclavage qu'en 1848, demandent l'interdiction de l'esclavage en Égypte. Et là, on a encore un des jeux de la modernité qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire avec quelle rapidité les Européens, quand ils adoptent une norme, ensuite l'imposent au reste du monde. Hein. Vous voyez, la France supprime l'esclavage en 1848 et dès les années 1860, elle demande que l'Égypte cesse de pratiquer l'esclavage. Donc, comme toujours, sous Ismaël, le pays est d'abord la propriété du maître de l'Égypte. Le vice-roi et sa famille proche possèdent à eux seuls 20% de la terre agricole. l'élite gouvernementale, les gens de la Beit, de la maison de Mehmet Ali, les Awats, constituent le second groupe de grands propriétaires, et puis le troisième groupe dans l'ordre, c'est la notabilité égyptienne. Et puis tout en dessous, on trouve les étrangers européens qui commencent à acheter des terres en Égypte. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a ici non pas une série de groupes sociaux absentéistes, mais plutôt une espèce de vaste bourgeoisie agraire, proche de l'appareil d'État, qui concentre ses investissements dans la terre, parce que tout simplement, c'est là où la rentabilité du capital est le plus élevée, d'autant plus que l'industrie n'est pas intéressante du fait des capitulations qui limitent les protections douanières. D'où la discussion chez un certain nombre d'historiens contemporains pour savoir si on ne peut pas assimiler l'extension de la culture cotonnière en Égypte à une forme de révolution industrielle, puisqu'il s'agit d'une production fondée sur un investissement en capital considérable et orientée sur un marché d'exportation, et donc pas du tout une culture agricole vivrière. Ismaïl se veut le grand modernisateur de l'Égypte. Dans sa jeunesse, il a fait de nombreux voyages en Europe. Il a été élève étranger à l'école de Saint-Cyr en France. Il dépense des sommes considérables auprès des responsables ottomans pour élargir la marge d'indépendance de l'Égypte. Il envoie ainsi une armée de 18 000 hommes participer à la répression de la révolte crétoise, ce qui le fera soupçonner de vouloir rétablir l'autorité égyptienne en Crète, puisque l'Égypte avait contrôlé la Crète entre les années 1820 et 1840, à la suite de la répression de la révolte grecque. L'étape essentielle du règne, c'est l'acceptation par l'autorité ottomane en 1866 que la succession passe à la primogéniture. Donc la primogéniture, c'est-à-dire l'aîné des enfants, mâle, dans le cas précis, puisque tous les problèmes des dynasties musulmanes, c'est qu'elles n'ont jamais exercé la primogéniture. Et tous les conflits dynastiques dans le monde musulman étaient liés au fait que les frères se faisaient la guerre pour succéder au père, d'autant plus que généralement ses frères n'avaient pas les mêmes mères, donc c'était des demi-frères. Et donc ça avait conduit à des lois aussi atroces que celui du fratricide dans l'Empire ottoman, où on tuait tous les frères du sultan pour qu'il n'y ait pas de guerre civile pour la sécurité de l'État. Et puis ensuite, on a adouci en les enfermant dans le harem toute leur vie. Mais ça avait toujours été un problème, la loi, le problème des frères. Donc, en établissant la primogéniture, on arriverait à régler les problèmes dynastiques une fois pour toutes, ce qui sera un peu plus compliqué malgré tout dans l'histoire de l'Égypte et de la dynastie de Mohammed Ali. Mais c'est un problème qui reste jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en dehors du Maroc, qui est la primogéniture s'est établie de fait en Jordanie, mais pas de droit. Quant à l'Arabie Saoudite, elle est encore sur le seigneurat, ce qui pose beaucoup de difficultés, puisqu'on finit par avoir des octogénaires au pouvoir, c'est-à-dire des gens aussi jeunes que le politburo soviétique sous Léonid Brejnev. Donc, en 1867, la négociation se continue et Ismaïl obtient le titre de Khedive pour lui et pour successeur. Il fallait donc un titre pour le maître de l'Égypte, et l'Égyptien, enfin la dynastie, voulait avoir le titre qu'elle pratiquait déjà depuis longtemps, mais sans avoir de reconnaissance publique, le titre de Aziz Mostr, qu'on traduisait dans le français délicieux du 19e siècle, le chéri d'Égypte, Aziz Mostr. Aziz Mostr, c'est le nom de Joseph dans le Coran, et Joseph, maître de l'Égypte. Et donc l'autorité ottomane refuse de reconnaître le titre de Aziz, qui était aussi porté par les grands mamelouks du 18e, comme Ali Ben Kebir. Donc finalement, on se met d'accord sur un titre persan, qui est celui de Khedive. Et donc en 1867, la dynastie obtient le titre héréditaire de Khedive. C'est Nobar Pacha qui a fait la négociation. Ensuite, on obtient le droit de négocier, de conclure des traités et des conventions avec les États étrangers, sauf en domaine politique. Et en 1873, toutes les restrictions sur les effectifs de l'armée égyptienne sont levées. Donc la souveraineté ottomane ne porte plus que sur le paiement d'un tribut annuel et sur l'obligation de ne pas porter atteinte aux traités politiques de la porte avec des États étrangers. Cela dit, il restera jusqu'à la fin de l'Empire ottoman toujours un conflit à l'événement de chaque khedive, puisque à chaque khedive, le sultan doit envoyer un brevet d'investiture, ce qu'on appelle en ottoman un berat, et évidemment à chaque fois il essaye de restreindre les pouvoirs du khedive. Évidemment, le khedive lui refuse ses restrictions, donc ça va durer comme ça jusqu'en 1914. Ismaïl a plutôt obtenu le soutien de Fouad Pacha, mais en revanche, qui meurt en 1869, mais plutôt l'hostilité d'Ali Pacha. La bureaucratie accroît de façon continue son contrôle sur le pays par la multiplication des organes de gouvernement. On établit des tribunaux dans l'ensemble des pays, ainsi que des conseils administratifs à différents niveaux de gestion. Et ces conseils administratifs sont évidemment essentiellement rempli de notables égyptiens de souche. La population est beaucoup plus encadrée, les naissances et les décès sont enregistrés, les fondations charitables et wakf sont régulièrement inspectées. Le tout est évidemment rendu possible par les progrès des communications, en particulier du chemin de fer, et par l'accroissement constant du nombre de petits fonctionnaires recrutés chez les Égyptiens de souche, sachant lire et écrire. C'est ce qu'on appellera à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle les Effendiya, donc toute cette classe des Effendi. Effendi étant un titre ottoman prestigieux, mais qui en Égypte a fini par dire que savoir lire et écrire. Mais c'est donc toute cette classe des Effendi qui est à la base et le fondement de toute l'histoire égyptienne du 19e siècle jusqu'à nos jours. Dans un souci de bonne administration, mais aussi dans une question de relations publiques, Ismaïl accorde un règlement organique en novembre 1866, créant une assemblée consultative, Shura, donc le terme islamique de consultation, élue en fonction de l'importance de la population de la circonscription. L'élément essentiel reste le chef du village, le Hamda, qui est le notable délégué par l'État, vraiment la base de la société. Vous connaissez toute l'anecdote quand les archéologues français fouillent, je crois, dans le delta du Nil et trouvent une magnifique statue de scribe accroupi et disent tout de suite, mais c'est le Cheikh al-Baled, le Hamda, c'est notre chef. Il n'y a rien de différent à 4000 ans de distance. Et c'est pour ça que la fameuse statue du Louvre s'appelle toujours le Cheikh al-Baled, le Hamda, au musée du Louvre, parce que ça avait été le cri spontané des paysans égyptiens devant la sortie de cette statue représentant ce qui voyait pour eux un chef de village, comme il y en avait dans l'Égypte du 19e siècle. Et c'est le Hamda qui est vraiment la pièce essentielle du système, parce que c'est lui qui fait la relation entre la population rurale et les autorités. Donc, le règlement organique spécifie, article 7, chaque village se réunissant et choisissant ses chaires, ces derniers auront naturellement le droit d'élire au nom des populations pourvu qu'ils soient dans les conditions voulues. Ces chaires se réuniront à la préfecture, chacun écrira sur un bulletin qui devra être tenu secret et fermé le nom de celui pour lequel il croit devoir voter et déposera ce bulletin dans l'urne électorale de son arrondissement. Donc, en apparence, on a tout un système représentatif à l'occidental. Et là, on est en train de voir le glissement de vieille idée de consultation, qui simplement, qui est sur le chef, consulte ses conseillers, à une idée de représentation qui commence à être amorcée, mais dans le système autocratique du Khedive. Et on voit très bien à la réunion de la première assemblée, le 25 novembre 1866, où Sharif Pacha, dont nous aurons très largement l'occasion de reparler, qui est un peu le sorte de président du Conseil des ministres d'Ismaël, fait tout un discours qui marque maintenant combien l'idéologie de la dynastie est une idéologie modernisatrice et civilisatrice. Je cite, « L'an passé, à cette même occasion, je disais que le règne du prince qui dirige d'une manière si habile et si généreuse les grandes destinées de ce pays avait pour devise « progrès, civilisation ». Eh bien, les faits accomplis se sont chargés de prouver ce que j'avançais alors. Les grands intérêts commerciaux et agricoles ont reçu leur satisfaction légitime. Le développement de nos voies ferrées et de notre réseau télégraphique a plus que doublé et contribue ainsi de la façon la plus efficace à l'extension de nos relations de toute nature. Enfin, dans un autre ordre d'idées, mais toujours pour concourir au même but, deux grands principes ont été inaugurés cette année qui viennent compléter cette magnifique évolution vers le progrès. Je veux parler d'abord, messieurs, de l'hérédité directe dans la famille de Son Altesse le Vice-Roi, principe obtenu de la faveur souveraine et sanctionné par l'adhésion des puissances amies. Nos légitimes inquiétudes pour l'avenir ont ainsi disparu. Les temps d'arrêt que subissait fatalement ce pays à chaque nouveau règne n'ayant plus désormais leur raison d'être, l'Égypte marchera dorénavant d'un pas sûr ininterrompu vers le progrès. Enfin, un conseil national a été créé pour discuter et voter en assemblée toutes les questions se rattachant aux grands intérêts intérieurs du pays. Grâce à cette heureuse et libérale création, il y aura désormais un lien indissoluble entre le gouvernant et les gouvernés. Bien dissolé, mais une référence coranique qui renvoie ce que doit être normalement les relations entre musulmans. Donc on voit combien l'idéologie dynastique égyptienne est maintenant complètement intégrée dans le projet européen de mission civilisatrice. Ce n'est plus un prétexte, c'est la façon même dont les élites égyptiennes se pense dans ces années 1860. C'est ce que dit le Khedive lors de son discours de réponse, en vantant les contributions de son grand-père, Mohammad Ali, et de son père, Ibrahim Pacha, à la civilisation de l'Égypte. La nouvelle assemblée a pour mission d'appliquer le principe religieux musulman de consultation, la Shura, afin d'agir pour la prospérité du pays. L'Égypte est présentée comme une patrie et on ne fait aucune référence à l'autorité ottomane. En fait, c'est une assemblée technique qui fait du bon travail dans les questions de fiscalité et de propriété. Et les biens est strictement un conseil de consultation des députés, Majlis Shura al-Nawab. Tout en étant un élément du système administratif, elle joue un rôle important dans le mouvement de promotion des Fallahs. Même si l'élite turco-circassienne continue de jouer un rôle majeur, c'est dans cette période que la langue arabe supplante définitivement l'ottoman dans la langue d'administration du pays. Depuis longtemps, Nubar Pacha, donc l'Arménien, s'est fait l'avocat de la création en Égypte de tribunaux mixtes qui mettrait fin aux ingérences permanentes des tribunaux consulaires dans les affaires courantes du pays et aux différents abus qui en découlent. Dans son esprit, cela doit conduire à l'établissement dans le pays d'un véritable état de droit. Je cite un passage de ses mémoires, dont je vous ai encore vanté la dernière fois l'importance de ses mémoires de Nubar Pacha comme témoignage extraordinaire sur l'Égypte du XIXe siècle. Je cite « Le tribunal a institué, la justice enfin m'a paru clairement alors comme atteignant un double but, celui de sauvegarder le pays contre les juridictions consulaires et en même temps contre les caprices et l'arbitraire du pouvoir absolu du vice-roi. Car dans mon idée, le vice-roi acceptant de se soumettre à la loi à l'égard des Européens, comme conséquence naturelle et forcée, serait amené à l'accepter également à l'égard des indigènes. Dans ces conditions, l'indigène, être privé de tout droit depuis des milliers d'années, se trouverait du coup élevé au même niveau que l'Européen et posséderait les mêmes privilèges et la même sécurité que lui. Là, on a vraiment... Bon, Nubar Pacha dit évidemment qu'il fait ça pour la totalité de la population égyptienne, mais il s'agit d'abord de la revendication des propriétaires fonciers par rapport au Khédive, puisque le Khédive a toujours le pouvoir de les éliminer, de confisquer leurs biens, etc. Donc, ils ont une exigence de constituer un état de droit pour garantir leur propriété et même éventuellement leur vie. Et c'est ça toute la problématique de cette période. À la fois, le Khédive s'appuie sur l'élite, et l'élite, évidemment, bénéficie des faveurs du Khédive, mais en même temps, l'élite veut maintenant se séparer du Khédive pour avoir la totale autonomie juridique et de la possession de ses biens. Si vous voulez, ça nous renvoie à des problématiques tout à fait contemporaines pour des pays comme la Chine, par exemple, où le grand capital vit encore dans la dépendance du pouvoir du Parti communiste. Et donc, il y a une espérance en Chine pour ces gens-là d'un état de droit, parce que l'état de droit permettrait de consolider la propriété privée, tandis que si le pouvoir reste arbitraire, la propriété n'est pas garantie. Et c'est donc par ces mécanismes que l'état de droit s'établit dans ces séries de régions sur le modèle européen. Nubar va être chargé en 1867 de longues et difficiles négociations avec la puissance capitulaire, affaire qui va être compliquée par la guerre franco-prussienne de 1870, qui va aboutir en 1875 par la création des tribunaux mixtes composés de magistrats égyptiens et étrangers, jugeant selon le code Napoléon. Cela permet une unification du droit, puisque avant les tribunaux consulaires jugeaient selon le droit de leur propre pays, et une séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est en ce sens-là que la constitution des tribunaux mixtes est une étape importante dans la constitution du droit égyptien. Et du fait des tribunaux mixtes et de l'usage du code Napoléon, bien évidemment, tout le droit égyptien va être influencé par le code Napoléon, y compris dans ces parties qui ne concernent pas les tribunaux mixtes. D'où le fait que les Égyptiens auront besoin d'une école de droit français pour enseigner le code Napoléon, et ainsi de suite. Et donc on enseignera en Égypte le code Napoléon jusqu'à la fin des tribunaux mixtes, c'est-à-dire après la conférence de Montreux 1937, qui met 13 ans pour faire disparaître les tribunaux mixtes. Donc, de mon souvenir, les derniers tribunaux mixtes ont cessé d'exister en 1950. Pour satisfaire à ses ambitions, Ismaïl consacre de grands moyens à la reconstitution de l'armée égyptienne. Mais en dépit de son éducation militaire, il n'est pas un chef de guerre, contrairement à son père et à son grand-père. Et surtout, la conjoncture militaire des années 1860 marque une importante rupture dans l'histoire de la guerre. En effet, c'est dans les années 1860 qu'il y a une nouvelle révolution militaire dans le monde, avec le développement des fusils à tir rapide et de l'artillerie de campagne. En France, c'est le fameux chassepot. Vous vous rappelez, en Montana, 1866, la phrase célèbre du ministre de la guerre français, « Les chassepots font merveille ». Les chassepots, c'est le fusil le plus développé de l'armée française de l'époque. Or, seuls maintenant des pays industrialisés peuvent fournir la gamme complète des nouveaux armements. Avant, jusqu'à 1850, des pays, entre guillemets, du tiers-monde, comme l'Empire ottoman où la Chine pouvait encore produire leurs propres armements. Maintenant, c'est fini. L'armement moderne, il est produit par des usines, elles-mêmes extrêmement modernes, dans un système de production qui implique aussi l'existence de recherche-développement, d'ingénieurs, etc. C'est à partir de 1860 qu'on entre dans un monde dominé par la livraison d'armement par les pays industrialisés au reste du monde, situation dans laquelle nous nous trouvons toujours, même si maintenant on peut fabriquer chez soi sa Kalachnikov, on n'en est pas encore à pouvoir fabriquer des drones, etc., qui reste le monopole de quelques pays. Donc maintenant, l'Égypte doit importer son armement, ce qui n'était pas le cas dans la période précédente, et c'est la même chose pour l'Empire ottoman. Les métiers militaires restent très décriés et le soldat égyptien levé par conscription est avant tout un paysan illettré devenu militaire pour son malheur. Mal nourri, mal équipé, son état sanitaire est déplorable. Les cas d'ophtalmie, c'est-à-dire donc d'aveuglement, qui est un mal endémique en Égypte, sont très fréquents. D'où le fait paradoxal, enfin premier paradoxal, qu'il est parmi les meilleurs éléments de l'armée égyptienne, ce sont les contingents noirs soudanais, composés d'anciens esclaves pour la plupart, qui forment le meilleur corps de troupes de l'armée égyptienne. Et d'ailleurs, à l'époque de la guerre du Mexique de Napoléon III, qui trouvait que les soldats français souffraient de la chaleur au Mexique, a demandé à Ismaël de lui fournir un régiment de Soudanais, ce qui était fait. Et donc, il y a eu un régiment de Soudanais égyptiens qui sont allés se battre au Mexique dans le cadre du corps expéditionnaire français. Et c'est tout à fait fascinant. J'avais jadis eu l'occasion de lire leur journal de marche. C'est un document assez extraordinaire. Pensé comme sujet de western, des Soudanais se battant au Mexique contre les troupes de Juarez dans les années 1860. Sous Ismaïl, le corps des officiers est composite. On trouve dans les grades inférieurs des Égyptiens de souche dont l'avancement se trouve maintenant bloqué, contrairement à l'époque de Saïd Pacha, par le presque monopole accordé aux Égypto-Ottomans, proches de la maison du Khédive, et un certain nombre de ces officiers proches du Khédive ne sont autres que des Mamelouks. C'est la dernière génération des Mamelouks en Orient, puisque c'est la génération en Tunisie de Rereddin qui est aussi un Mamelouk. C'est le dernier moment des Mamelouks avant leur disparition, c'est-à-dire les années 1860-1880. Rappel, les Mamelouks, ce sont des esclaves propriétés de l'État. Un Mamelouk, ça veut dire propriété de l'État. Leur langue est l'ottoman et ils comprennent très mal l'arabe. Et comme ils sont mal formés militairement, de plus en plus, Ismaïl voit avoir tendance à avoir recours à des Occidentaux de diverses origines engagés comme experts. Au départ, comme d'habitude, ce sont plutôt des officiers français, mais très rapidement, au milieu des années 1860, on va avoir recours à un stock d'officiers qui est disponible sur le marché, c'est-à-dire les anciens officiers de l'armée américaine de la guerre de sécession. Et on voit donc ici des personnages comme Stone Pasha, qui est le chef d'état-major de l'armée égyptienne, et qu'un général américain de la guerre de sécession. Donc là aussi, autre sujet de western, ces Américains qui se battent dans l'armée égyptienne dans les années 1860-1870, ce sont des vétérans de la guerre de sécession. Mais cela dit, cela marche mal, hein, parce que ces officiers européens connaissent mal l'arabe, donc ils sont obligés de passer par des interprètes pour donner des ordres. Au mieux, la langue de communication, c'est le français entre les officiers américains et les officiers égyptiens, donc ça ne facilite pas le fonctionnement de l'appareil militaire. Mais évidemment, dans les années 1860, les meilleurs militaires du monde sont les officiers américains, puisqu'ils sortent de la plus grosse guerre que le 19e siècle a connue, qui est la guerre de sécession. Pour le reste, dans l'armée égyptienne, on a la même maladie que toutes les armées de la seconde moitié du XIXe siècle, y compris l'armée française, c'est-à-dire l'opposition entre les officiers venus des armes savantes, comme le génie, l'artillerie, etc., qui donc ont formé toute une éducation et une éducation scientifique de niveau d'ingénieur, et les militaires ordinaires sortis du rang. Vous savez que c'est une des explications qu'on a données à l'affaire Dreyfus, qui est un coup des militaires sortis du rang de la guerre de 1870 contre les officiers polytechniciens dont Dreyfus était l'un des représentants. Donc c'était ce clivage, enfin c'est une des raisons de l'affaire Dreyfus qui était ce clivage dans l'armée française entre les armes savantes et les armes entre guillemets non savantes. Mais le problème en plus dans l'armée égyptienne du temps d'Ismaël, c'est que les armes savantes sont composées de chrétiens européens ou américains et non pas de musulmans, ce qui fait des difficultés. Et contrairement à l'époque de Muhammad Ali, on accède maintenant à des commandements militaires pour les Européens sans avoir besoin de se convertir. Vous vous rappelez le fameux colonel Sèvres, entre guillemets, parce qu'il n'a jamais été colonel, donc Soleiman Pacha, qui a été le grand chef d'état-major de l'armée égyptienne sous Ibrahim Pacha. Bon, Soleiman Pacha était évidemment un Français converti à l'islam. Maintenant, un Stone Pacha peut avoir la même fonction sans avoir besoin de se convertir. Alors ensuite, Ismaël achète des fusils américains Remington, des canons allemands Krupp, mais en dépit de la qualité de l'armement de l'armée égyptienne, sa qualité décroît de façon constante. Ce qui manque, c'est un grand général égyptien capable de contrôler l'appareil militaire éventuellement par la terreur, comme le faisait Ibrahim Pacha. On rappelle, pour les contemporains des années 1830-1840, Ibrahim Pacha était l'un des plus grands généraux du monde. Il était considéré en Europe comme un militaire de très haute qualité. Donc on n'a plus ça dans les années 1860. Interdit d'ambition territoriale en Méditerranée, Ismaël se tourne vers l'Afrique. L'Égypte, à partir du Soudan, se présente comme la civilisation en marche. Là, on a maintenant la totalité du discours colonial européen repris par les Égyptiens musulmans. Et en utilisant le prétexte de la lutte contre l'esclavage, les Égyptiens vont se lancer dans la conquête du Haut Nil. Évidemment des Égyptiens, mais aussi des Européens au service du calife. Le but est de créer un empire colonial égyptien en Afrique noire. C'est le discours d'Ismaël en 1869, est tout à fait éloquent sur ce point. Nous, Ismaël, calife d'Égypte, considérant la triste condition des tribus du bassin du Nil, qu'il n'existe dans ces contrées ni gouvernement, ni loi, ni sécurité, que l'humanité oblige à supprimer les chasseurs d'esclaves qui occupent ces contrées en grand nombre, que l'établissement d'un commerce légal dans ces contrées fera faire un grand pas à la civilisation et doit résulter de l'ouverture des grands lacs équatoriaux de l'Afrique centrale. Vous avez vu que Burton avait découvert les grands lacs. À la navigation à vapeur et de l'établissement d'un gouvernement permanent, nous avons décrété et décrétons ce qui suit. Une expédition est organisée pour soumettre à notre autorité les contrées situées au sud de Gondoroco, pour supprimer le commerce des esclaves, pour introduire un système de commerce régulier, pour ouvrir à la navigation les grands lacs de l'équateur, pour établir une chaîne de stations militaires et de dépôts commerciaux, distant de 3 jours de marche en Afrique centrale, Gondoroco étant prise comme base des opérations. Alors, de grands aventuriers européens du XIXe siècle vont participer à l'aventure africaine de l'Égypte. Parmi les plus célèbres, Samuel Beckett et sa femme. Et puis ensuite, vous avez, on le verra, l'arrivée du célèbre Gordon Pacha, qui succédera à Samuel Beckett Pacha. Ces gens sont aussi des explorateurs, au sens où j'en ai parlé la dernière fois. Donc évidemment, Baker ou Gordon vont faire aussi des relations de voyage qui sont elles-mêmes des succès de librairie. Baker tente d'implanter une série de fortins afin de contrôler ces vastes régions, mais échoue à limiter le commerce des esclaves, d'où l'envoi d'un homme plus énergique que Gordon Pasha. Encore un de ces grands aventuriers de cette période, un ancien officier britannique de la guerre de Crimée. Gordon est surtout devenu célèbre sur le plan mondial en entrant au service de l'armée de l'empereur de Chine, et c'est lui qui a écrasé la révolte de Taiping en Chine. Et donc c'est auréolé de sa guerre en Chine contre les Taiping que Gordon va entrer au service d'Ismaël pour faire la conquête du Soudan, d'utilisant la manière forte contre les grands commerçants esclavagistes. Donc là, vous voyez la progression continue des Égyptiens en Afrique centrale, créant la province d'Équatoria, annexant au Soudan égyptien le Darfour, puis le Bahr el-Ghazal. Et ensuite, les Égyptiens font la conquête de la côte des Somalies et se heurtent partout à l'Éthiopie, puisqu'on continue à descendre le Nil, et ils arrivent sur l'Éthiopie, et puis au-delà, puisqu'ils vont arriver sur les grands lacs africains. C'est-à-dire, pour la géographie actuelle, l'ultime pointe égyptienne, c'est l'Ouganda d'aujourd'hui. J'ai trouvé dans les archives, dans les documents égyptiens de l'époque, c'est bien parce qu'on connaît évidemment Livingstone, je présume, mais je suis tombé entre Baker et Ernest Lynan Belfond, qui étaient deux explorateurs au service d'Ismaël et qui ne se connaissaient pas, donc ils se retrouvent quelque part du côté de l'Ouganda. Comme ils n'ont pas été présentés, ils s'échangent des cartes de visite. On est vraiment là, dans la modernité coloniale. Donc, le problème essentiel, c'est la lutte contre l'esclavage, qui donne des résultats contraires. Il faut revenir sur un point essentiel, la traite atlantique du XVIe au XVIIIe siècle est une traite qui passe par des grossistes. Je veux dire par là que les Européens étaient incapables de pénétrer en Afrique pour des raisons médicales, parce que dès qu'ils quittaient la ligne du littoral en Afrique, ils tombaient malades de fièvre jaune et autres, et ils mouraient. Donc les Européens restaient sur le littoral africain et avaient créé un marché pour la production d'esclaves de la traite interafricaine, qui faisait que c'était les Africains eux-mêmes qui capturaient les esclaves et qui les vendaient aux Européens sur la côte de l'Afrique noire. C'est comme ça que fonctionnait la traite atlantique, jusqu'au moment où elle a été officiellement supprimée par les Britanniques en 1807 et surtout en 1815 par le traité de Vienne. Alors que la traite islamique, celle de l'océan Indien, est absolument prédatrice, parce qu'elle est visible. Ce sont les commerçants omanais et autres, ou égyptiens d'ailleurs, ou turcs, qui pénètrent profondément en Afrique noire, qui incendie les villages et emporte les esclaves. Et comme on commence à voir les explorateurs européens, ceux-ci voient, comme Livingstone et les autres, les dégâts absolument extraordinaires que provoque la traite islamique, ou celle si vous préférez, de l'océan Indien. D'où le fait qu'on a ensuite projeté sur la traite atlantique les images que les Européens ont vues de la traite de l'océan Indien dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec ce côté extraordinairement prédateur qu'avait cette traite, cette capture d'esclaves par les Omanais, les Zanzibariens et autres. Mais en même temps, il faut se rappeler que paradoxalement, si la traite était d'une impitoyable dureté, l'esclavage en terre d'islam était beaucoup plus doux que l'esclavage européen dans le Nouveau Monde. D'où le problème que pose la Convention anglo-égyptienne de 1877 qui met fin au commerce des esclaves en Égypte avec une période de transition de 7 ans pour l'Égypte et de 12 pour le Soudan en ce qui concerne la vente d'esclaves entre familles. La convention prévoit une aide aux anciens esclaves pour leur permettre de trouver des emplois. Mais il est strictement impossible de ramener les esclaves dans leur pays d'origine parce que tout simplement, on ne sait pas d'où ils viennent. L'évolution des mœurs va aussi dans ce sens et un certain nombre de ulamas, des ulémas à tendance moderniste en Égypte, font des fatwas, des avis favorables, conduisant à une limitation drastique de l'esclavage, voire à son abolition. Donc là encore, bon, évidemment sous pression européenne, l'Égypte est ce laboratoire de la modernité qui supprime pour la première fois l'esclavage en terre d'islam. Mais il y aura toujours le problème que finalement, beaucoup, comme l'esclave en Afrique, enfin en Égypte, une fois qu'il est arrivé en Égypte, est essentiellement à la domesticité, la suppression de l'esclavage ne change rien à leur statut, puisqu'ils restent comme domestiques dans les familles qui les employaient. Si la conquête du Soudan et des provinces équatoriales se fait au nom de la civilisation en marche, la réalité est évidemment plus contrastée ou correspond d'ailleurs à ce qu'est la civilisation en marche du côté européen dans les autres secteurs de l'Afrique, mais qu'avec un décalage chronologique. Comprenez bien, cette pénétration égyptienne en Afrique entre 1860 et 1880 précède la ruée sur l'Afrique, le Scramble for Africa, qui commence, lui, vers 1880. Donc, la première pénétration massive en Afrique noire, ce sont les Égyptiens, avec leurs Européens, bien évidemment. On se retrouve dans la même problématique qui sera celle de la constitution des empires coloniaux européens en Afrique à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire que les coûts de la conquête sont bien supérieurs aux revenus. Donc, on va finir par exercer une violence terrible sur les populations, ne serait-ce que pour pouvoir arriver à rembourser les frais de la conquête. C'est ce qui a conduit au désastre de l'État libre du Congo, du roi Léopold, à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire le déséquilibre entre les coûts et les bénéfices de la conquête coloniale. En ce qui concerne le Soudan proprement dit, la conquête égyptienne va amplifier la différence entre un Soudan du Nord déjà islamisé et les régions du Sud qui sont pour l'essentiel animistes et qui sont victimes de la traite des esclaves. De surcroît, les Égyptiens tentent d'établir un islam entre guillemets orthodoxe et institutionnalisé, c'est-à-dire l'islam de l'Azhar, à des musulmans soudanais qui vivent essentiellement dans un islam confrérique d'inspiration soufi. D'où un mécontentement général des musulmans qui exaspère le rôle croissant donné aux fonctionnaires européens dans l'administration du Soudan et de la province d'Équatoria. Pour le reste, sur le plan intérieur, comme on a entendu les discours, il y a des pratiques, en effet. L'extension de l'irrigation et du chemin de fer sous le règne d'Ismaël. En 1869, le réseau ferroviaire s'étend sur 1338 km. Le Caire et Alexandrie sont dotés de quartiers modernes à l'européenne, ont construit des théâtres et des opéras. Des sociétés savantes sont établies dont la langue de travail est le français. Société Quédivial de géographie, etc. J'avais visité jadis les caves de la Société Quédivial de géographie, qui était devenue la Société Royale de géographie, avant de devenir la Société Nationale de géographie. Et en effet, il y avait dans ces caves des trésors anthropologiques datant des années 1860-1880, faits par les conquérants égyptiens de l'Équateur. Mais le problème essentiel, c'est le canal de Suez. Les adversaires britanniques du canal de Suez ont utilisé le prétexte humanitaire pour essayer de s'opposer au percement de l'isthme. Ah, donc la question de la corvée, et Ismail a délégué Nubar Pacha pour discuter avec les Français d'un changement de la convention. Finalement, on passe une procédure de justice qui va conduire à un arbitrage qui sera confié à Napoléon III. Contre l'abandon de la corvée et la rétrocession d'une partie du domaine foncier de la Compagnie universelle du canal, l'Égypte doit payer de lourdes indemnités. Ces lourdes indemnités vont permettre à la Compagnie du canal de transformer ses méthodes de travail en passant sur l'usage systématique de la machine à vapeur et de l'outillage le plus moderne. Et donc la dernière phase de la construction du percement de l'isthme ne sera plus la corvée, mais l'extrême modernité de la fin des années 1860. En 1869, progrès unit les peuples, souvenir éternel, l'inauguration du canal de Suez, dans des fêtes absolument splendides. La France est représentée par l'impératrice Eugénie, vous avez l'empereur François-Joseph qui est là, et ainsi de suite, le gratin de la société européenne. Ismail apparaît donc comme un despote éclairé, mais munificent. L'Égypte est maintenant très lourdement endettée, alors que le retour des États-Unis sur le marché cotonnier a mis fin aux années de prospérité insolente.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Henri Laurence, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.